Le journal de George Fox 1667-1685 Angleterre, Europe et retour page 3 Le quatrième jour suivant, il me fut imposé d'aller de nouveau à la réunion de Gracechurch Street, car j'avais entendu dire qu'il viendrait disperser la réunion ce jour-là. Les voisins semblaient en avoir été informés, un juge avait accordé un mandat à cette fin, et le constable dit à un ami que Hilton, l'informateur, lui avait parlé de la réunion. Le constable voulait que l'informateur vienne à la réunion avec lui, mais l'informateur refusa et dit au constable d'y aller sans lui. Je ne sais pas si son refus de venir mit le constable en colère ou non, mais il ne vint pas. J'étais dans une profonde préoccupation d'esprit, dans la puissance de Dieu, et j'y fus poussé à aller à la réunion, et la puissance du Seigneur enchaîna tout le monde. Bien qu'ils aient menacé d'amener les soldats en manteau rouge, aucun ne vint, et il n'y eut aucun trouble, mais ce fut une réunion glorieuse et puissante, et très paisible, gloire, honneur et louange au Seigneur au-dessus de tout à jamais. Amen. Pendant le temps que je restais à Londres, comme j'avais du loisir entre les réunions et en dehors d'autres services publics, j'écrivis beaucoup de livres et de papiers, certains furent imprimés, et d'autres se répandirent sous forme manuscrite. Parmi ceux-ci, l'un était adressé aux évêques et à d'autres qui excitaient la persécution, pour leur montrer, d'après les Saintes Écritures, qu'ils n'y marchaient pas selon la loi royale, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu feras aux autres ce que tu voudrais qu'on te fît. » Un autre était, à toutes les diverses sortes de chrétiens professants, tant protestants que papistes, dont la religion et le culte consistent en observances et cérémonies extérieures, les pressant par ces paroles de l'apôtre Paul aux Galates 5:2-4, « Voici moi Paul je vous dis que, si vous vous faites circoncire, dans l'espoir d'obtenir le salut, Christ ne vous servira de rien. Car j'atteste encore à tout homme qui se fait circoncire, comme moyen d'obtenir le salut, qu'il est tenu d'observer toute la loi. La venue et le sacrifice de Christ n'ont aucun effet pour vous, vous tous qui cherchez votre justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce, afin qu'il considère si, étant retourné aux observations légales et aux cérémonies d'ombre, en maintenant les dîmes, offrandes, prémices, vêtements des prêtres, autels extérieurs, temples, lampes, lumières, etc. Et en observant des jours, des mois, des temps, des années, avec bien d'autres choses commandées par la loi, il n'était pas entré dans le même état où les Galates étaient en train de tomber, et ainsi n'était pas déchu de la grâce et devenu débiteur de toute la loi. Un autre encore était, pour diriger et tourner tous les peuples vers l'Esprit de Dieu, afin qu'ils reçoivent par là une juste intelligence, et soient capables de distinguer entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, afin que, sous prétexte de punir les malfaiteurs, ils ne fassent pas eux-mêmes le mal en persécutant les justes. La lettre est ici insérée. De Dieu, qu'il a répandu sur chacun, donne l'intelligence à tous ceux qui se laissent conduire par lui, et à ceux qui n'étouffent pas ses mouvements, il donne la connaissance et le discernement pour distinguer le bien du mal. La lumière des ténèbres, Christ de l'Antichrist, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance de la Nouvelle, l'ancienne voix de la voix nouvelle et vivante, les brebis et les agneaux des boucs et des loups, le culte de Dieu que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, du culte du dragon et de la bête, et tous ceux qui adorent les. Ceux qui croient en la lumière, qui est la vie en Christ, deviennent enfants de lumière et sont les agneaux de Jésus. Ces agneaux suivent l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Ils ne suivront ni les mercenaires, ni les étrangers pour être conduits dans des voies, des doctrines, des religions et des églises étrangères, car les agneaux de Christ suivent Christ, l'agneau de Dieu, et connaissent sa voix céleste. Ils savent aussi que ceux qui sont sans Christ sont des chiens et des loups, des adultères, des idolâtres, des menteurs et des incrédules, qui voudraient dévorer les agneaux, mais ceux-ci sont dans la main du Seigneur, qui est sa puissance au-dessus de tout, ainsi ils font le bien dans sa puissance envers tous, car ils ont la pensée de Christ, qui veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Ceux qui font du bien à tous ne font de tort à personne, car l'esprit qui fait du tort à quelqu'un n'est pas de Dieu, mais l'esprit qui fait du bien à tous, et surtout à la maison de la foi, est de Dieu. Christ n'est pas venu détruire la vie des hommes, mais la sauver. C'est le diable qui est le destructeur de la vie des hommes au sujet de la religion, lui qui corrompt les hommes et les femmes en les rendant sourds et aveugles aux choses de Dieu et en les détournant de la voie de Dieu. Ceux qui obéissent aux mauvais et abandonnent le Seigneur sont détruits par le destructeur, mais Christ détruit ce destructeur, et en Christ tous ont la vie. George Fox. J'écrivis aussi au sujet de la méditation, du plaisir, de l'exercice et de l'étude, montrant, d'après les Écritures de vérité, sur quoi les vrais chrétiens doivent méditer, à quoi ils doivent exercer leur esprit et prendre plaisir, et ce qu'ils doivent s'appliquer à faire. Car non seulement les gens profanes et dissolus prennent plaisir aux choses terrestres, passagères et périssables, mais même de grands professants de religion prennent plaisir aux mêmes choses, alors qu'ils devraient méditer aux choses célestes, se réjouir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, et se conduire de manière à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, comme l'apôtre Paul. D'après les archives quakers britanniques concernant les persécutions à Bristol, en Angleterre, en 1682. Le 7 du mois appelé juillet, ils dispersèrent la réunion, qui alors se composait principalement d'enfants, car les hommes et les femmes étant généralement en prison, les enfants maintenaient leur réunion régulièrement, et avec une gravité et un calme remarquables. Il était surprenant de voir le courage viril et la constance avec lesquels certains garçons se comportèrent en cette occasion, restant fidèles aux réunions en l'absence de leurs parents, et subissant pour cela de nombreux mauvais traitements avec patience. Le 30, l'après-midi, environ 55 personnes étaient à la réunion, lorsque Elliard, muni d'un bâton à âme de baleine torsadé, en battit beaucoup sans pitié, leur portant de violents coups à la tête, au cou et au visage, peu d'entre eux échappant sans quelques marques de sa fureur. Il envoya aussi le 13 août 11 garçons et 4 filles à Bridewell, la prison locale, jusqu'à ce qu'un ami se porte garant de leur comparution le lendemain devant le maire adjoint, qui s'efforça, tant par des persuasions que par des menaces, de leur faire promettre de ne plus venir à aucune réunion. Mais les enfants, sur ce point, demeurèrent inébranlables. Ils furent donc renvoyés à Bridewell Elliard pour les effrayer, chargeant le geôlier de préparer un nouveau chat à 9 queues pour le lendemain matin. Le lendemain, au Tolzay, il pressa les juges de les faire corriger, mais ne put l'emporter. Les garçons et les filles avaient pour la plupart de 10 à 12 ans. Leurs noms étaient Samuel Gibbon, William Millet, Joseph James, Elias Osborne, Tabitha Jaune, Jonathan Jaune, William Free, Joseph Watkins, Rachel Mears, William Day, Samuel Watkins, James Randy, Martha Watkins, Martha James et James Will. Comme les souffrances continuaient d'être très vives et lourdes sur les amis, non seulement dans la ville, mais dans la plupart des régions du pays, je rédigeai un mémoire à présenter au roi, exposant nos griefs et demandant réparation de sa part dans ces cas particuliers que je comprenais être en son pouvoir. Mais n'ayant obtenu aucun secours de lui, il me vint d'écrire une épître aux amis, pour les encourager dans leurs souffrances, afin qu'ils supportent avec patience les nombreuses épreuves qui leur étaient imposées, tant par les magistrats que par de faux frères et des apostats, dont les livres méchants et les calomnies ignobles attristaient les cœurs droits. Lorsque je partis visiter un ancien ami à Dalston, qui était alité malade, j'écrivis cette épître. « Amis et frères en Christ Jésus, que le Seigneur a appelé et rassemblé en lui-même, demeurez en lui. » Car sans lui vous ne pouvez rien faire, et par lui vous pouvez tout faire. Il est votre force et votre soutien dans toutes vos épreuves, tentations, emprisonnements et souffrances. À cause de Christ, vous êtes comptés comme des brebis destinées à l'abattoir. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par Christ qui nous a aimés. Ainsi donc, amis, bien que vous souffriez par les puissances extérieures, vous savez que les prophètes, Christ et les apôtres ont souffert par les inconvertis. Et bien que vous souffriez pour un temps par de faux frères et des apostats, et par leurs livres immondes et leurs langues, dont les langues sont en effet devenues des instruments de calomnie, qu'ils parlent, écrivent ou impriment ce qu'ils veulent, car les gens sobres, même du monde, y prêtent à peine attention. Il est bon qu'ils se soient ainsi exposés au monde, afin que leur folie n'aille pas plus loin, quoique de tout leur pouvoir, ils aient montré leur intention mauvaise d'exciter contre nous les magistrats, les professants et les méchants, et de dire du mal de la voix de la vérité. Les jugements de Dieu les atteindront, aussi sûrement qu'ils ont atteint ceux qui les ont précédés. Que leur prétexte soit aussi élevé qu'il puisse être, observez leur fin, car ils tomberont comme des figues trop précoces et se dessécheront comme l'herbe plantée sur le toit de la maison. Quoiqu'ils semblent fleurir, et se vanter et faire du bruit pour un temps, pourtant la semence est sur leur tête et les réduira en poudre, la même semence qui écrase la tête du serpent. Ainsi donc, dans cette semence, Christ, qui est votre sanctuaire, votre repos, votre paix et votre demeure tranquille, qui est le premier et le dernier, et au-dessus de tout, marchez en lui. Car le Seigneur prend plaisir à son peuple fidèle qui le sert et l'adore. Que les saints donc se réjouissent dans la gloire, et que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende parfait, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse. Remettez tous vos soucis au Seigneur, car il prend soin de vous. Et bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'épreuve de feu qui doit vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal, et réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leurs âmes en faisant le bien, comme un Créateur fidèle. Car il vous est accordé non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Ainsi il est donné, ou c'est un don de Christ, de souffrir pour son nom, réjouissez-vous donc, car vous participez aux souffrances de Christ. Si l'on parle de vous avec mépris ou en mal à cause du nom de Christ, soyez heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur côté il est blasphémé, mais de votre côté il est glorifié. Ainsi, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à ce sujet. quoique pour un temps, vous soyez maintenant dans les souffrances, les épreuves et les tentations, l'épreuve de votre foi est bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, quoique éprouvée par le feu, que votre épreuve aboutisse à la louange, à l'honneur et à la gloire, comme vous êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi pour le salut. Ainsi prenez garde à celui qui vous garde, où que vous soyez, ou quelles que soient les souffrances où vous êtes, et considérez l'exemple de l'apôtre, comment il a souffert comme un malfaiteur, y compris l'emprisonnement. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, elle est éternelle et demeure à jamais, et ceux qui sont dans ce qui n'est pas éternel et ne dure pas à jamais ne peuvent lier la parole. L'apôtre a dit, « J'endure tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Remarquez, avec la gloire éternelle, et si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec Christ qui demeure fidèle. Ainsi ne vous mêlez pas à des conversations stériles, en évitant les propos impurs et le bavardage issu de l'orgueil, bavardage impie, car ils accroîtront votre impiété, évitez-les afin d'être des vases d'honneur, sanctifiés et propres à l'usage de Christ votre Maître, et préparés pour toute bonne œuvre. Recherchez la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combattez le bon combat de la foi avec vos armes célestes. Cette foi est la victoire ou donne la victoire par laquelle vous saisissez la vie éternelle et avez accès à Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres à ceux qui persévèrent patiemment dans le bien, cherchant la gloire, l'honneur, l'immortalité et la vie éternelle, mais pour ceux qui sont crêleurs et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, l'indignation et la colère, la tribulation et l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, mais la gloire, l'honneur et la paix. Christ a dit à ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et Jean, dans son épître général à l'Église, a dit, « Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » Et Christ, dans sa prière à son Père, a dit de ses disciples, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ainsi, vous tous qui connaissez Dieu et Jésus-Christ, le connaître, c'est la vie éternelle, et qui participez à sa gloire, gardez le témoignage de Jésus, et soyez vaillants pour sa vérité sur la terre, afin que vous soyez tous affermis sur Christ, le roc et le fondement. » George Fox d'Alston, le 3 aujourd'hui, de moi. 1682 Je ne fis qu'un court séjour à Dalston, puis je retournai à Londres, où je restai la plus grande partie de l'hiver, travaillant au service de la vérité parmi les amis, sauf pendant un petit temps à Kingston, au 10e mois de cette année, où j'écrivis un livre exposant l'état de la naissance charnelle et de la naissance spirituelle, et le devoir et l'état d'un enfant, d'un adolescent, de jeunes hommes, d'hommes âgés et de pères dans la vérité. Mais je ne restai pas longtemps à Kingston, car l'intense persécution continuait toujours, et je sentais que mon service était surtout requis à Londres, où nos réunions étaient le plus souvent troublées et dispersées, contraignant les amis à se réunir dehors parce que les officiers les empêchaient d'entrer dans leur maison de réunion. Pourtant, à notre surprise, il nous arrivait parfois d'avoir une réunion tranquille et paisible dans des maisons. Une fois, j'avais décidé de rendre visite à un ami qui n'était pas bien, à quelques milles de la ville. Toutefois, ayant appris que le roi avait envoyé dire au maire de faire exécuter les lois contre les dissides, et que les magistrats entendaient alors clouer les portes de la maison de réunion, je ne me sentis pas libre de sortir de la ville, mais je fus poussé à aller à la réunion de Gracechurch Street. Malgré toutes leurs menaces, une réunion paisible et nombreuse eut lieu, et la gloire du Seigneur resplendit sur tous. La même semaine, j'allai à la réunion du Peel, dans John Street, et les sessions du tribunal se tenaient le même jour à Hickrol. J'y allai le matin, et comme William Mead devait comparaître aux sessions pour ne pas être allé au culte de la Steeplechase, il vint une ou deux fois de Hickrol vers moi au Peel. Ce que quelques personnes mal intentionnées ayant remarqué, allèrent informer les juges sur le banc qu'il était allé à une réunion au Peel. Sur quoi ils envoyèrent un messager pour voir s'il y avait une réunion, mais comme c'était en fin de matinée, il n'y avait pas de réunion. Le messager revint donc et le leur dit. Ensuite, d'autres informèrent les juges qu'il y aurait une réunion l'après-midi, alors ils firent venir le chef constable et lui demandèrent « Pourquoi permettez-vous qu'il y ait une réunion au Peel, si près de vous ?» Il leur répondit qu'il ne connaissait aucune réunion là. Ils lui demandèrent, « Comment pouvez-vous ne pas le savoir, habitant si près ?» Il dit, qu'il n'y était jamais allé de sa vie et n'avait connaissance d'aucune réunion là. Ils essayèrent de le convaincre qu'il devait le savoir, mais il maintint son déni, et ils dirent, « Ils ordonneraient qu'on s'en occupe de nouveau l'après-midi. » Mais après avoir traité de bien d'autres affaires aux sessions, lorsque l'heure du dîner arriva, Ils se hâtèrent d'aller dîner sans donner d'ordre, et quand ils revinrent au banc après le dîner, le Seigneur leur ôta cela de l'esprit, de sorte que la réunion fut tranquille, commençant et finissant dans la paix. Et nous eûmes une réunion bénie, la présence du Seigneur étant précieusement parmi nous. Lorsque les amis me virent entrer dans la réunion, beaucoup craignaient que je sois arrêté, mais avant d'y aller, je résolus en mon esprit que, si telle était la volonté du Seigneur, j'étais prêt à être arrêté et à souffrir, car je n'avais en tête, à ce sujet, que la gloire du Seigneur. Je crois que le Seigneur leur ôta cela de l'esprit afin qu'ils ne donnent pas l'ordre de disperser notre réunion ce jour-là. Pourtant, le premier jour suivant, 3 ou 4 juges, comme je l'ai entendu, vinrent aux piles et expulsèrent les amis de leur maison de réunion, et les en tinrent éloignés. Ils demandèrent aussi William Mead, mais il n'y était pas. Ce jour-là, je fus poussé à aller à la réunion de Gracechurch Street, et l'on s'attendait à ce que les officiers viennent disperser la réunion ou empêcher les amis d'entrer, et plusieurs centaines de personnes vinrent voir ce qu'on nous ferait. Mais les officiers ne vinrent pas, ainsi nous fûmes dans la paix et le calme, et beaucoup de ceux qui étaient venus regarder restèrent tout le temps, et nous eûmes une réunion glorieuse et précieuse, car la présence du Seigneur était abondamment parmi nous, et sa puissance couvrit tout, gloire à son nom à jamais, lui qui est au-dessus de tout. J'avais vu le discours imprimé du maire sur l'exécution des lois contre les dicides, et je pensais que nous devrions rédiger un mémoire à envoyer au maire et aux échevins, pour nous disculper d'être de ceux contre lesquels ces lois avaient été faites, et pour exposer notre conduite paisible tant envers le roi et le gouvernement. En conséquence, un mémoire fut rédigé, signé et remis au maire, et des copies furent remises aux échevins, ainsi qu'à l'évêque de Londres, qui, en général, le reçurent avec bienveillance et furent courtoises envers les amis qui le leur apportèrent. À peu près à cette époque, je fus poussé à écrire aux amis les quelques lignes suivantes. « Chers amis, sentez la puissance de Dieu en vous tous et au-dessus de tout, et par elle que vos cœurs soient unis les uns aux autres, et au Seigneur Dieu, qui vous a rassemblés lui-même par sa puissance et son esprit, afin d'être un peuple pour le servir et l'adorer. Ainsi vous pourrez tous vous efforcer de vous surpasser les uns les autres en vertu, et dans cet amour qui supporte toutes choses et édifie le corps de Christ, le corps du second Adam. Car le corps du vieil Adam, dans la chute, est plein de malice, d'envie et de vice. Ainsi vous qui avez été appelés hors du vieil Adam dans la chute, et qui avez revêtu Christ le second Adam, qui n'est jamais tombé, marchez en lui, trésor de vie, de sagesse et de connaissance, en qui vous avez la paix avec Dieu, qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que tous donc soient rassemblés vers Dieu, en celui qui réconcilie toutes choses en un, tant les choses du ciel que celles de la terre, qui est le témoin fidèle et véritable en l'homme et en la femme. En lui asseyez-vous, lui qui est au-dessus des renards rusés dans leur terrier, et des oiseaux de l'air dans leur nid. Je dis, asseyez-vous en Christ, qui n'a point de place parmi eux pour poser sa tête, il est votre repos. Ainsi, en lui est mon amour pour vous tous. George Fox, Londres, le 20 du 11 mois, 1682. Peu après, je reçus par lettre un récit de quelques amis prisonniers à Denby, au pays de Galles, indiquant que beaucoup d'amis y enduraient de grandes souffrances pour le témoignage d'une bonne conscience. Dans le sentiment tendre de cela, je fus poussé, dans l'amour de Dieu, à leur rendre visite par quelques lignes, comme paroles de consolation dans leurs souffrances, et d'exhortation à tenir ferme dans le témoignage qui leur était confié, de la manière suivante, « Chers agneaux souffrant pour le nom et le commandement de Jésus. Soyez vaillants pour sa vérité et fidèles, et vous sentirez la présence de Christ avec vous. Regardez à celui qui a souffert pour vous, qui vous a acheté et vous nourrira, lui qui a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde, lui qui détruit le diable et ses œuvres, et qui écrase la tête du serpent. Je dis, regardez à Christ, votre sanctuaire, en qui vous avez repos et paix. Il vous est donné, non seulement de croire, mais de souffrir pour son nom. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution de la part des professants impies de Christ Jésus, qui vivent hors de lui. Ainsi soyez vaillants pour la vérité de Dieu sur la terre, et regardez au-dessus de l'esprit qui vous fait souffrir, vers Christ, qui était avant qu'il fût, et qui sera quand il aura disparu. Considérez tous les prophètes, Christ et les apôtres, qui ont souffert et ont été persécutés, mais ils n'ont jamais été persécutés comme des hommes véritables, mais comme des imposteurs, et pourtant ils étaient vrais. Christ est le même aujourd'hui qu'hier, un roc et un fondement pour votre âge et votre génération sur lequel bâtir. J'ai écrit à votre sujet, après avoir reçu votre lettre, aux amis du Cheshire pour qu'ils vous visitent, comprenant que vous dépendez de leur réunion trimestrielle. Je souhaite que certains amis de votre comté aillent exposer votre condition souffrante devant la réunion mensuelle ou trimestrielle du Cheshire. J'ai aussi écrit à Richard Davy, afin que certains de ce côté viennent vous visiter et voient quelle est votre situation. Mon amour est avec vous dans le Seigneur, qui seul est votre soutien. George Fox, Londres, le 27 du 11 mois, 1682. Comme beaucoup de magistrats ne voulaient pas que des amendes soient infligées aux maisons de réunion, ils tinrent les amis à l'écart en de nombreux endroits, plaçant des officiers et des gardes de soldats aux portes et aux passages. Pourtant, parfois, les amis étaient amendés pour avoir parlé ou prié, même si cela se faisait à l'extérieur de la maison de réunion. Un premier jour, il me fut imposé d'aller l'après-midi à la réunion de Devonsirous, et comme j'avais entendu dire que les amis avaient été tenus dehors le matin, comme il l'était ce jour-là à la plupart des réunions de la ville, j'y allai un peu plus tôt et j'entrai dans la cour avant que les soldats viennent garder les passages. Mais les constables y étaient arrivés avant moi et se tenaient dans l'embrasure de la porte avec leurs bâtons. Je leur demandai de me laisser entrer, ils dirent qu'ils ne pouvaient et n'osaient pas parce qu'on leur avait commandé de nous arrêter et qu'ils en étaient désolés. Je leur dis que je ne m'opposerais pas à eux, ainsi je restai à côté et ils furent très courtois. Je restai jusqu'à ce que je sois fatigué, alors l'un d'eux me donna un tabouret pour m'asseoir, et au bout d'un moment la puissance du Seigneur commença à jaillir parmi les amis, et l'un commença à parler. Les constables lui commandèrent bientôt de se taire et dirent qu'il ne devait pas parler. Comme ils ne s'arrêtaient pas, ils commencèrent à se fâcher, mais je posai doucement ma main sur l'un des constables et lui demandai de le laisser. Le constable céda et se calma, et l'ami ne parla pas beaucoup plus longtemps. Lorsqu'il eut fini, je fus poussé à me lever et à parler, et dans ma déclaration je dis, « Il n'était pas nécessaire qu'ils viennent contre nous avec des épées et des bâtons, car nous sommes un peuple paisible, et nous n'avons dans le cœur que de la bienveillance envers le roi et les magistrats, et envers tous les peuples sur la terre. Nous ne nous assemblons pas sous prétexte de religion pour comploter contre le gouvernement, ou pour soulever des insurrections, mais pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons Christ pour évêque, prêtre et berger pour nous nourrir et veiller sur nous, et il règne dans nos cœurs, ainsi nous pouvons tous nous asseoir en silence, jouissant de notre maître. Ainsi je les recommandai tous à Christ, leur évêque et leur berger. Je me rassis, et au bout d'un moment je fus poussé à prier, et la puissance du Seigneur était sur tous, et les gens, y compris les constables et les soldats, ôtèrent leurs chapeaux. Quand la réunion fut terminée et que les amis commencèrent à partir, le constable ôta son chapeau et demanda au Seigneur de nous bénir, car la puissance du Seigneur était sur lui et sur le peuple. Après cela, je parcourus les environs, visitant les amis chez eux, à qui l'on avait saisi des biens personnels pour avoir adoré Dieu. Nous fîmes un relevé de ce qui leur avait été pris. Quelques amis se réunirent à ce sujet et rédigèrent par écrit le cas des souffrances de nos amis, et le remirent au juge lors de leur petite session. Il en résulta qu'ils rendirent une ordonnance, que les officiers ne vendraient pas les biens personnels des amis qu'ils avaient en leur possession, mais les garderaient jusqu'aux sessions suivantes, ce qui découragea quelque peu les informateurs et mit un léger frein à leurs agissements. Le premier jour suivant, il me fut imposé d'aller à la réunion du Savoie, et au moment où elle était rassemblée, le huissier du tribunal entra, et après lui, les gens déchaînés comme une mer, mais la puissance du Seigneur les enchaîna tous. L'Esprit du Seigneur passa au travers et au-dessus de tous, et ils furent calmes, et nous eûmes une réunion glorieuse et paisible. Béni soit le Seigneur pour sa bonté inexprimable. C'était au 12e mois, 1682. Au 1er mois, 1683, j'allai à Kingston upon Thames. En allant à la réunion, je rencontrai le chef constable qui avait été au lieu de réunion et avait placé des gardiens pour nous en tenir éloignés. Pourtant il fut assez courtois, et les gardiens laissèrent sortir de banc pour que les amis puissent s'y asseoir sur la route. Ainsi les amis se réunirent là, et nous eûmes une réunion très précieuse, car la présence rafraîchissante du Seigneur était avec nous, et nous nous séparâmes dans la paix. Après avoir visité et encouragé les amis là, je retournai à Londres et j'allai à la réunion de Bournemouth, où les constables, avec leurs gardiens, montaient la garde pour empêcher les amis d'entrer dans la maison. Nous nous réunîmes donc dans la rue, et quand un ami parlait, les officiers et les gardiens faisaient grand semblant de le tirer à bas et de le mettre en détention. Après que quelques autres amis eurent parlé, il me fut imposé de parler. Je dis « Le ciel est le trône de Dieu, et la terre son marchepied, et nous laisserez-vous pas nous tenir sur le marchepied de Dieu pour adorer et servir le Dieu vivant ?» Pendant que je parlais, ils restèrent calmes, et après que j'eus fini ce que je me sentais poussé à dire, nous dispersâmes notre réunion en paix. C'était le 6e jour de la semaine. Le premier jour suivant, je fus poussé à aller à la réunion de Gracéchur Street. Quand j'y arrivai, je trouvai une garde placée à l'entrée sur Lombard Street et une autre au portail sur Gracéchur Street pour empêcher les amis d'entrer au lieu de réunion. Ainsi nous fûmes contraints, mais heureux, de nous réunir dans la rue. Après quelque temps, je montai sur une chaise et parlai longuement au peuple, leur ouvrant les principes de la vérité et déclarant beaucoup de vérités graves et importantes concernant la magistrature et la prière du Seigneur. En plus des amis, il y avait une grande multitude de gens, et tout était très calme, car la puissance du Seigneur était sur tous, et en son temps nous dispersâmes la réunion et nous partîmes en paix. Le lendemain j'allai à Guildford dans le Surrey, et après avoir visité les amis là, je passai à Worminghurst dans le Sussex, où j'eus une réunion très bénie parmi les amis sans trouble. Pendant que j'y étais, James Claypole de Londres, qui s'y trouvait avec sa femme, fut soudain pris d'un malaise très grave, avec une crise de colique néphrétique si violente qu'il ne pouvait ni se tenir debout ni se coucher, et, dans une douleur extrême, il criait comme une femme en travail. Quand je l'appris, j'en fus très affligé en esprit et j'allai le voir. Après lui avoir dit quelques mots pour tourner son esprit vers l'intérieur, je fus poussé à poser ma main sur lui et à prier le Seigneur de réprimander son infirmité. Comme je posais ma main sur lui, la puissance du Seigneur le traversa, et par la foi en cette puissance, sa douleur s'apaisa rapidement et il s'endormit bientôt. À son réveil, le calcul sortit de lui comme de la terre, et il allait si bien que, le lendemain, il fit avec moi 25 milles en carrosse, alors que chacune de ses précédentes crises de colique néphrétique l'avait cloué au lit pendant 2 à 4 semaines. Mais le Seigneur fut imploré pour lui, et par sa puissance, il donna bientôt du soulagement à James cette fois. Béni et loué soit donc son saint nom. Après avoir eu quelques réunions dans le Sussex et le Surrey, et visité les amis dans la région, je retournai à Londres par Kingston, où j'eus une réunion le premier jour du deuxième mois, étant le premier jour. Un constable et des gardiens nous tinrent à l'écart de la maison de réunion, et nous fûmes donc contraints, mais heureux, de nous réunir sur la route. Comme c'était le jour de la réunion mensuelle et que beaucoup de gens étaient venus, la réunion fut assez grande et très calme, et la présence bénie du Seigneur était parmi nous, béni soit son nom à jamais. De retour à Londres, j'allai à la réunion de Willow Street, près de Spitalfield, qui ce jour-là s'avéra très grande, et ce fut une réunion glorieuse et bénie, car la puissance et la vérité du Seigneur étaient au-dessus de tout, et beaucoup de choses profondes et importantes furent ouvertes au peuple, à sa grande satisfaction. Je restai à Londres et dans ses environs, visitant les réunions et travaillant au service de l'Évangile, jusqu'à la réunion annuelle, qui commença le 28 du troisième mois. C'était un temps de grande souffrance, et j'étais très préoccupé à l'idée que les amis venant de la campagne pour le service de l'Église puissent être arrêtés et emprisonnés à Londres. Mais le Seigneur était avec nous, sa puissance nous préserva, et cela nous donna une douce et bénie occasion de l'attendre, d'être rafraîchis ensemble en lui, et d'accomplir ses services pour sa vérité et son peuple auquel nous étions réunis. Ensuite vint un temps de grande persécution, et nous comprîmes que dans certains comtés, les amis enduraient de grandes souffrances soit par l'emprisonnement, soit par la saisie de biens personnels, soit les deux. Une préoccupation pesa fortement sur moi, de peur que les amis, surtout ceux qui commerçaient et faisaient des affaires dans le monde, ne risquent de perdre les biens ou les patrimoines d'autrui du fait de leurs souffrances. À la suite de cela, comme cela me fut révélé, je rédigeai une épître d'avertissement aux amis dans ce cas, que je communiquai à la réunion annuelle, et de là elle fut envoyée parmi les amis dans tout le pays, dont voici une copie. « Chers amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est votre seul sanctuaire en ce jour de tempête et de persécution, de saisie de biens personnels et d'emprisonnement. Que les yeux de chacun soient tournés vers lui, à qui toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre, de sorte que nul ne peut toucher un cheveu de votre tête, ni vous, ni quoi que ce soit que vous ayez, si ce n'est que cela soit permis ou accordé en ce jour pour éprouver son peuple, afin de voir si leurs pensées sont avec le Seigneur ou sur les choses extérieures. Chers amis, veillez à ce que toutes vos offrandes soient libres de tout privilège, gage ou obligation, et bien à vous, que vous ayez entièrement payé, afin que vous n'offriez pas ce qui est à un autre, ou ce dont vous êtes dépositaire et qui n'est pas à vous, ou des biens d'orphelins ou de veuves, mais que toutes ces choses soient réglées et établies à leur place. Vous pouvez vous souvenir qu'il y a de nombreuses années, en un temps de grande persécution, beaucoup d'amis qui étaient marchands, boutiquiers et autres, avaient entre leurs mains les affaires de veuves et d'orphelins et les biens d'autres personnes. Et lorsqu'une grande souffrance, persécution et saisie de biens s'abattit sur les amis, on prit un soin particulier que la seule chose offerte au Seigneur dans leur souffrance fût réellement la leur, et non les biens ou les biens mobiliers d'autres personnes qu'ils avaient en main, et qu'ils n'offrissent pas le bien d'autrui, mais seulement ce qu'ils avaient acheté et payé, ou ce qu'ils étaient en mesure de payer. Par la suite, plusieurs lettres arrivèrent de la campagne à la réunion de Londres, de la part d'amis qui avaient des marchandises des boutiquiers de Londres à crédit, qu'ils n'avaient pas payées. Ils écrivirent à leurs créanciers en leur demandant de reprendre leurs marchandises. Et certains amis vinrent eux-mêmes à Londres et parlèrent avec leurs créanciers, leur faisant comprendre qu'ils risquaient de tout voir saisi, et leur dire qu'ils ne voulaient faire souffrir personne à cause d'eux, et qu'ils ne voulaient pas, par leur souffrance, offrir quoi que ce soit si ce n'était ce qui était réellement à eux, ou ce qu'ils étaient capables de payer. sur quoi plusieurs reprirent leurs marchandises. Cela donna une très bonne réputation aux amis dans le cœur de nombreuses personnes, lorsqu'elles virent un principe si juste, si droit et si honnête, qui ne voulait faire souffrir personne pour leur témoignage, mais que ce pourquoi ils souffraient, pour le témoignage de Jésus, fut réellement et véritablement à eux, et non à d'autres. En cela, ils ne devaient rien à personne, sinon l'amour. Ainsi en cela, chaque homme et chaque femme se tient dans l'offrande libre, un peuple libre, qu'il s'agisse du spirituel ou du matériel qui leur appartient, et en cela ils ne font tort à personne, ni intérieurement ni extérieurement. Ornan dit à David, « Je te donne l'air. » Et les bœufs pour les holocaustes, et les instruments de battage pour le bois, et le blé pour l'offrande, je donne tout. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, mais je l'achèterai en vérité au prix entier, car je ne prendrai pas ce qui est à toi pour le Seigneur, ni n'offrirai des holocaustes qui ne me coûtent rien. » 1 Chr 21-24. Ainsi toute offrande devait être ce que David possédait, et ainsi doit être l'offrande de tout homme qui offre. Vous pouvez voir ici que David n'accepta pas le don d'un autre homme comme offrande au Seigneur, il n'offrit pas ce qui ne lui coûtait rien, mais ce qui devait être réellement à lui. Psaume 112-5. L'homme de bien conduit ses affaires avec discernement. Que ceci soit lu dans vos réunions mensuelles et trimestrielles des hommes et des femmes. George Fox, Londres, le 2 du 4 mois, 1683. Quelque temps après la réunion annuelle, j'allais à Kingston sur la Tamise pour visiter les amis, et tandis que j'y étais, il me vint d'écrire l'épître suivante aux amis en général, comme salutation d'amour et pour réveiller en eux l'esprit pur. Chers amis et frères, vous qui êtes passés des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, vous qui êtes croyants dans la lumière, qui est la vie en Christ, et qui êtes devenus enfants de la lumière et du jour, greffés en Christ le second Adam, le Seigneur venu du ciel, et rassemblés au nom de Jésus, en qui vous avez le salut, et en aucun autre nom sous tout le ciel. Car le Christ Jésus a dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18-20. Ainsi vous étant assemblés au nom de Jésus, il est au milieu de vous, un sauveur, un médiateur, un prophète, un berger, un évêque, un conducteur, un conseiller, le chef de votre salut, qui écrase la tête du serpent et détruit le diable et ses œuvres. C'est pourquoi, frères en Christ Jésus, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'on peut dire, aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Car vous avez été fait participant de Christ, si vous retenez fermement jusqu'à la fin le commencement de votre assurance. HBR 3.14. Écoutez donc la voix de Christ, car il est au milieu de vous comme un maître. Prenez garde que nul de vous n'ait un cœur mauvais d'incrédulité, en se détournant du Dieu vivant, comme il y en a trop en ce jour de provocation et de tentation. Tant qu'il est aujourd'hui, écoutez sa voix, et considérons comment nous stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Retenons la confession de notre foi sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle, et il vous a appelé. Ne cessez pas de vous assembler avec les autres croyants, comme c'est l'habitude de quelques-uns, remarquez, comme c'est l'habitude de quelques-uns, qui ont négligé et négligent de se réunir, mais exhortez-vous les uns les autres, et exhortez d'autant plus que vous voyez paraître le jour de la lumière. Car si nous péchons, volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires. Hébreux 10-24-27. Il est donc bon de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous exhorter chaque jour, car Christ est au milieu de son peuple, comme un maître et un prophète, lui qui a dit « Apprenez de moi, le chemin, la vérité et la vie ». Nous qui sommes nombreux, nous ne sommes qu'un seul corps en Christ, assemblés en son nom, et chacun est membre les uns des autres. Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, si c'est la prophétie, prophétisons selon la mesure de la foi, que ceux qui exercent un ministère servent ceux qui sont sous leurs soins, que les enseignants s'attachent à leur enseignement, que celui qui exhorte encourage et persuade, que celui qui donne le fasse avec simplicité et discrétion, que celui qui préside le fasse avec diligence, et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Ayez en horreur le mal, attachez-vous au bien. Soyez bienveillants et pleins d'affection les uns envers les autres, d'un amour fraternel, par honneur, préférez-vous les uns aux autres. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans la tribulation, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainque le mal par le bien, et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, Rome 12. Telle est et telle a été la pratique de l'Église du Christ. Et maintenant, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je suis moi-même aussi persuadé que vous, mes frères, êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance, et capables aussi de vous avertir les uns les autres, Rome 15, 14. Voici l'Église du Christ, au milieu de laquelle Christ est présent comme un maître et le chef de l'Église, et les membres étaient et sont capables, par lui, de s'avertir les uns les autres. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez aussi été appelés en un seul corps, à savoir celui de Christ. Que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous avertissant les uns les autres. Col. 3. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce à Dieu le Père par lui, et par-dessus tout, recherchez l'amour, qui est le lien de la perfection. L'apôtre dit à Timothée, « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. » 2 Tim 1:8-9. Il importe à chacun de ne pas avoir honte du témoignage de notre Seigneur, qui les a appelés par sa grâce, et de ne pas avoir honte des prisonniers de Christ ni de ceux qui sont affligés pour Christ et pour son Évangile, lui qui abolit la mort et met en lumière la vie et l'immortalité par son Évangile, vous qui croyez dans la lumière, vous le savez. Pierre dit dans son épître générale à l'Église du Christ, « Comme chacun, notez chacun, a reçu un don, mettez-le au service les uns des autres, comme de bons dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les oracles de Dieu, et non des hommes. Si quelqu'un sert, qu'il serve selon la force que Dieu fournit, et non selon les capacités que donnent les arts et les sciences des hommes, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Car ces dons et cette grâce viennent de Jésus dans le cœur des membres de son Église, au milieu de laquelle il se tient. Et si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu. Tout vrai chrétien a la présence de Christ, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, pour le soutenir par sa puissance, sa lumière et sa vie. Christ dit à ses croyants, « Prenez garde aux hommes, car ils vous livreront au conseil, et ils vous fouetteront dans leur synagogue, et vous serez amenés devant des gouverneurs et des rois à cause de mon nom, pour servir de témoignage contre eux et contre les païens. Mais quand ils vous livreront, ne vous préoccupez pas de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz, car à l'heure même il vous sera donné ce que vous aurez à dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur, il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur comme son seigneur, car s'ils ont appelé le maître de la maison un démon, comment appelleront-ils son serviteur? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et ne peuvent tuer l'âme. Un moineau ne tombera pas à terre sans que votre Père céleste le sache. Les cheveux de votre tête sont tous comptés, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque me confessera devant les hommes, je confesserai qu'il est mon disciple devant mon Père qui est aux cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Et quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Matthieu 10:30-33. De nouveau Christ dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Marc 8:38. Et Christ dit à ses disciples, « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, celui qui reçoit un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste au nom d'un juste recevra une récompense de juste. » Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits qui sont à moi, fût-ce une coupe d'eau froide, parce qu'il est mon disciple, je vous l'assure, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10:40-42. Ici vous pouvez voir comment Christ encourage ses disciples et ceux qui les reçoivent. Et Jean dit, parmi les principaux chefs des Juifs, beaucoup crurent en Christ, mais à cause des pharisiens ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Jean 12:42. Il y a aujourd'hui trop de croyants qui hésitent à confesser Christ par crainte de perdre l'approbation des hommes. Mais Christ encouragea ses disciples fidèles et leur dit qu'on les chasserait de leur synagogue, oui, que l'heure viendrait où quiconque les tuerait croirait rendre service à Dieu. Ils vous feront ces choses, dit-il, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure viendra vous vous souveniez que je vous les ai dites. Jean 16:2-4. Ici vous pouvez voir ce que Christ dit à ses disciples qui devait leur arriver. Et Saul, avant sa conversion, contraint les chrétiens à blasphémer et ravagea l'Église du Christ. Actes 8:1-3 et Actes 22:1-8 et Actes 26:9-11. La bête, dans l'Apocalypse, ne contraignait-elle pas petits et grands à l'adorer? Elle est son image. Et tous ne l'adorèrent-ils pas, sauf ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau? Nebuchadnezzar ne dressa-t-il pas une statue de 60 coudées de haute et de 6 coudées de large? Et ne fit-il pas crier un héros à haute voix? Il est ordonné que tous les peuples, nations et langues se prosternent et adorent l'image d'or que Nebuchadnezzar a dressée, et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera, à l'heure même, jeté au milieu de la fournaise ardente, et Shadrach, Meshach et Abednego ne furent-ils pas jetés dans la fournaise d'âne ? 3. Mais Dieu les délivra. Il est donc bon d'être fidèle à Dieu et à son culte en esprit et en vérité. Les Juifs convinrent que si quelqu'un confessait Christ, il serait chassé de leur synagogue. Jean 9, 22. Ainsi, c'est pour l'amour de Christ qu'ils furent excommuniés de leur synagogue. Mais comme il est écrit, « Voici, je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confus. » Isaïe 28, 16. Ainsi Christ est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour tous les incrédules à l'égard de la lumière, qui est la vie en Christ, qu'ils soient juifs, chrétiens ou païens. Les Juifs croyaient, d'après les Écritures, que Christ devait venir, et les chrétiens croient d'après les Écritures qu'il est venu, mais ils ne croient pas en la lumière comme Christ le commande, et ainsi ne deviennent pas enfants de la lumière. C'est pourquoi vous qui croyez dans la lumière et êtes devenus enfants de la lumière, marchez en Christ votre chemin, votre vie et votre salut. George Fox Kingston, le 5 mois, 1683 avant de quitter Kingston, « Quelque chose de plus est encore ouvert en moi, que je fus poussé à écrire et à envoyer parmi les amis. Comme suis, chers amis, mon amour est envers vous tous dans la semence sainte qui règne sur tout. Et mon désir est que chacun, homme et femme, puisse sentir en lui la semence Christ, qui est héritière de la promesse de la vie éternelle, afin que vous croissiez tous en Christ Jésus votre tête, et que vous soyez édifiés sur lui, le roc et le fondement que Dieu a posé, qui demeure solide au-dessus de tous les rocs et fondements du monde. Que vous puissiez manger et boire de ce roc spirituel, de cette eau et de cette nourriture spirituelle, de sorte que vous puissiez dire en vérité intérieurement que votre roc et fondement, votre pain et votre eau de vie viennent du ciel, et que votre pain et votre eau sont sûrs, et aussi que vous connaissez sa voix qui nourrit et qui vous conduit dans les pâturages de vie, toujours frais et verts. En cela, vos affections se portent vers les choses d'en haut, recherchant davantage ce qui descend d'en haut que ce qui vient d'en bas, là où Christ est assis à la droite de Dieu, intercédant pour vous, lui qui est votre médiateur faisant la paix entre Dieu et vous, et votre évêque céleste qui veille sur vous, afin que vous demeuriez dans sa lumière, sa vie et sa puissance, et que vous ne vous écartiez pas de son bercail et de son pâturage céleste, afin que lui, votre berger, vous y nourrisse. Il est votre prophète, pour vous ouvrir l'accomplissement des promesses et des prophéties, lui-même en étant la substance, afin que vous viviez en lui, et lui en vous, oui, et qu'il règne dans vos cœurs, afin d'y exercer ses charges, sa charge prophétique, sacerdotale et royale, qui est céleste et spirituelle. Que vous connaissiez les trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, qui est la vie de Christ, qui purifie de tout péché, l'eau qui vous lave et vous rafraîchit, l'Esprit qui baptise, circoncit et vous conduit dans toute la vérité, afin que tous vous veniez boire dans un seul Esprit et garder l'unité de l'Esprit, qui est le lien de la paix céleste. Ainsi étant conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes ses fils et ses filles, et par son Esprit vous en viendrez à connaître les trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Ce sont les trois témoins qui sont dans le ciel, qui rendent témoignage de toutes choses, car il est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. C'est pourquoi je désire que vous sentiez tous son amour répandu dans vos cœurs, et que vous viviez en lui, au-dessus de l'amour du monde, qui est inimitié, et qu'en cela vous demeuriez dans la voie excellente. Car l'amour édifie le corps de Christ, bâtit son Église et tient hors de l'inimitié, car il lui est supérieur, et ramène et garde tous dans la vraie humanité et dans la vraie divinité, et il rend courtois, bons et tendres les uns envers les autres. Et manifestez la nature de Christ et le vrai christianisme dans toutes vos vies et vos conversations, afin que les bénédictions du Seigneur reposent sur vous, puisque vous vivez tous dans la semence de l'Évangile, la semence du royaume de Dieu, en laquelle toutes les nations sont bénies. En cela, vous aurez tout souci de la gloire de Dieu. Là est la colline, ou la montagne, où la lumière brille pour répondre aux témoins de Dieu en tout, et le sel qui est une bonne saveur pour le témoin de Dieu dans le cœur de tous, et cette saveur et ce sel, étant gardés en vous, ne viennent pas sous les pieds des hommes. Ainsi mon amour à vous tous en Christ Jésus, que Dieu a donné pour être un sanctuaire à tout son peuple, lui qui est d'en haut et non de ce monde, en qui vous avez la vie, la paix et le salut. En lui, que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous préserve tous pour sa gloire. Amen. Comme vous vivez dans la vérité paisible de Dieu, elle vous garde sous et dans sa protection. Mais ceux qui professent les Écritures de vérité et pourtant vivent de la vérité, dans un esprit de crêle, d'agitation et de mécontentement, dans un esprit d'intrigue, de complot, de rapine et de destruction, qui est du diable et non de Dieu, cet esprit est jugé comme étant hors de la vérité, et comme appartenant à celui en qui il n'y a point de vérité, dont la part est dans l'étang et dans le feu qui brûle. George Fox Kingston, le 27 du 5 mois, 1683, après avoir visité les amis à Kingston et aux environs, je retournais à Londres, car c'était un temps d'épreuve pour les amis là-bas, et je n'avais pas la liberté de m'éloigner longtemps de la ville. J'allais à la réunion au PIL, qui avait été dispersée peu avant mon arrivée par les juges de paix et les constables, et ils s'étaient conduits très rudement, mais, ce jour-là, la réunion eut lieu dans la maison, elle fut calme et glorieuse, béni soit le Seigneur. Le premier jour suivant, j'allais à la réunion de Gracechurch Street, où je trouvai trois constables dans la maison de réunion, qui empêchaient les amis d'entrer, nous nous réunîmes donc dans la cour. Après avoir été quelque temps dans la réunion, je me levai et parlai aux gens, et je continuai à parler assez longtemps. Alors l'un des constables vint, me saisit la main et dit « Je dois vous faire descendre ». Je lui demandai d'être patient, et je continuai à parler aux gens, mais au bout d'un moment, il me tira vers le bas et m'emmena dans la maison de réunion. Je leur demandai s'ils n'étaient pas là de ce travail. L'un d'eux dit « En vérité, ils l'étaient ». Ils me laissèrent aller dans la maison de la veuve Fausté, attenant à la maison de réunion, où je restai car il faisait très chaud. Un ami pria après qu'on m'eût emmené, et quand la réunion fut terminée, les constables demandèrent à quelques amis « Lequel d'entre vous voudrait garantir par sa parole que je comparaîtrai, si l'on devait les interroger à mon sujet ?» Mais les amis leur dirent qu'ils n'avaient pas besoin d'exiger cela, car j'étais bien connu dans la ville comme « quelqu'un qui ne fuirait ni ne se cacherait ». Ils ne vinrent pas à moi, mais s'en allèrent, et je n'en entendis plus parler. La même semaine, j'assistai à la réunion du Savoie, qui s'était tenue dehors et avait été troublée, mais ce jour-là elle était à l'intérieur et paisible, et ce fut une précieuse réunion. Le premier jour suivant, il m'incomba d'aller à la réunion de Westminster, où il y avait d'ordinaire de grands troubles, mais là aussi ce jour-là, la réunion eut lieu à l'intérieur et fut très nombreuse. La puissance du Seigneur dominait tout et gardait tout calme et tranquille, car bien que beaucoup d'esprits légers y fussent, ils étaient maintenus sous la puissance et l'Esprit du Seigneur, de sorte qu'ils ne pouvaient se lever pour faire du trouble. Vers ce temps-là, je fus poussé à écrire l'épître suivante, « Amis et frères, vous qui avez reçu la vérité paisible, que les fruits de sa paix et de votre esprit tranquille paraissent dans toutes vos réunions et dans toutes vos paroles et actions. Car celui qui habite l'éternité demeure avec un cœur humble, il fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Le ciel est son trône, et la terre sur laquelle vous marchez est son marchepied. Heureux êtes-vous de voir et de connaître celui qui est invisible. Et maintenant, amis, que tout se fasse dans vos réunions et ailleurs, dans l'amour, sans crainte ni recherche de soi. Car l'amour accomplit la loi, et l'amour triomphe et édifie le corps de Christ. Il n'y a ni moi ni envie dans l'amour, il ne s'enfle pas d'orgueil, mais l'amour endure et supporte toutes choses. Veillez à ce que cet amour de Dieu règne en vous tous et sur vous tous. Christ a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand les hommes vous outrageront et vous persécuteront, et diront faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Maintenant, amis, il y a beaucoup dans ces paroles. Tous doivent être dans ces états et conditions pour avoir ces bénédictions. Les enfants de Dieu sont des artisans de paix et s'efforcent de faire la paix dans la vérité et de vivre en paix avec tous les hommes autant que possible. Vivez donc dans la paix et la bienveillance envers tous les hommes, cette bienveillance visant à la fois leur sanctification et leur salut. Et amis, considérez que la sagesse de Dieu qui vient d'en haut est pure, pacifique, douce, raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Chers amis, que cette sagesse pure, pacifique et douce qui vient d'en haut, qui est raisonnable et pleine de miséricorde et de bons fruits, soit exercée et pratiquée dans toutes les véritables églises du Christ, afin que la sagesse soit justifiée par ses enfants. Car les œuvres de la chair, ou de l'esprit charnel, sont la haine, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la haine, la discorde, la jalousie, les accès de colère, l'ambition égoïste, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, etc. Et ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'Esprit de Dieu sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ainsi, chers amis et frères, efforcez-vous de surpasser les uns les autres et tous les hommes sur la terre en humilité, en douceur, en gentillesse, en tempérance, en amour, en patience, en pureté et en miséricorde. Alors vous manifesterez les fruits de l'Esprit de Dieu et de sa sagesse céleste qui vient d'en haut. En cela, la sagesse sera justifiée par ses enfants, et vous serez le sel de la terre, et une lumière pour le monde, placée sur une colline qui ne peut être cachée, et votre modération paraîtra à tous les hommes. soyez justes et droits, fidèles et vrais dans toutes vos paroles, vos affaires et vos conversations, afin de répondre à la vérité en tout, car Christ a dit que son Père est glorifié par ce qui porte du fruit, et que les hommes voient les bonnes œuvres qui en résultent, car celui qui pratique la justice est agréé de Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, car l'amour est son état de demeure. Que cet état de demeure soit celui de chacun de ceux qui ont reçu la vérité, car sinon, vous ne demeurez pas en Dieu, quelle que soit la condition que vous prétendiez avoir. C'est pourquoi mon désir est que vous tous qui avez reçu Christ, la semence qui écrase la tête du serpent, marchiez en lui comme dans votre sanctuaire, votre vie et votre salut, votre repos et votre paix. Amen. George Fox, Londres, le 14 du 6 mois, 1683. Je restais encore à Londres, travaillant à l'œuvre et au service du Seigneur, tant dans les réunions qu'en dehors, visitant parfois des amis en prison pour le témoignage de Jésus, les encourageant dans leurs souffrances et les exhortant à demeurer fidèles et fermes dans le témoignage que le Seigneur leur avait confié de porter, visitant aussi parfois ceux qui étaient malades et faibles de corps ou troublés d'esprit, les aidant à soutenir leur âme afin qu'elles ne sombrent pas sous leurs infirmités. Parfois nos réunions étaient calmes et paisibles, parfois elles étaient troublées et dispersées par les officiers. Un premier jour, il m'incomba d'aller à la réunion du Savoie, qui était grande, car beaucoup de personnes professantes et de gens sérieux y étaient. Le Seigneur ouvrit en moi beaucoup de choses précieuses et profondes pour le peuple, que je déclarai parmi eux et je les dirigeai vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, dont le Seigneur leur avait donné une mesure, afin que tous par l'Esprit comprennent les Écritures qui ont été produites par l'Esprit de Dieu, et qu'ainsi par l'Esprit de Dieu, ils connaissent Dieu et Christ que Dieu a envoyé, le connaître étant la vie éternelle, et que par l'Esprit ils puissent tous venir en Christ et le connaître comme leur sanctuaire, lui qui détruit le diable, le car Christ était un sanctuaire pour ceux pour qui il était un sauveur, qu'il sauvait du destructeur. Et Christ les baptisait du Saint-Esprit et de feu, et purifiait entièrement son air, brûlant leurs balles d'un feu inextinguible, c'est-à-dire le péché et la corruption, qui entrèrent dans l'homme et la femme par leur désobéissance, mais Christ recueille son blé dans son grenier. Ainsi tous ceux qui sont baptisés du baptême de Christ, leur blé est dans le grenier de Dieu, et rien de destructeur ne peut entrer dans le grenier de Dieu pour nuire au blé qui s'y trouve, bien qu'il puisse être permis de nuire aux biens matériels. Comme je parlais dans la puissance du Seigneur, par laquelle le peuple était fortement touché, des constables et une foule de gens grossiers se déversèrent soudain dans la réunion. L'un des constables dit « Descendez » et posa les mains sur moi. Je lui demandai « Êtes-vous chrétien ? Nous sommes chrétiens. » Il me saisit la main et était très décidé à me tirer vers le bas. Mais je restai immobile et dis encore quelques paroles au peuple, demandant au Seigneur de poser les bénédictions de Dieu sur eux tous. Back next.